Alors, je vous invite, après tous ces témoignages de comment Dieu est capable d'aider dans le mauvais jour, de trouver Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, on va lire les versets 10 jusqu'à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il y a donc quelques semaines, on a commencé à regarder ce passage, à regarder ce thème de l'armure du chrétien, puisque donc on a pu voir que même si on est chrétien, et on a entendu à plusieurs reprises dans les témoignages ce matin, il y a des moments où on doit passer par ce que l'apôtre appelle le mauvais jour. Alors, il est vrai que certains chrétiens imaginent qu'il suffit d'être chrétien pour ne plus jamais passer par de mauvais jours, puisque puisqu'on est chrétien, tout est fantastique, tout est merveilleux, il n'y a plus de problème dans la vie, et que donc on marche de victoire en victoire sans jamais avoir à mener de combat. Alors que généralement, si on parle de victoire, on n'est pas victorieux de rien. On est victorieux en sortant victorieusement d'un combat. Mais ce qu'on constate quand on regarde dans la Bible, c'est que, comme dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y avait déjà, à l'époque du Nouveau Testament, des chrétiens qui pensaient que, étant devenus chrétiens, ils étaient intouchables, que tout irait pour le mieux, qu'il n'y aurait jamais de mauvais jours. Et l'apôtre Paul doit leur écrire dans 1 Corinthiens chapitre 4 en leur expliquant que il suffirait normalement qu'il regarde à son exemple, lui, apôtre choisi par Jésus-Christ pour leur avoir apporté le message de l'évangile, pour être celui qui allait fonder cette église de Corinthe, celui qui donc allait être pour eux un père spirituel et donc un modèle pour le troupeau. Il dit, normalement, si vous regardiez attentivement ma vie, vous verrez que au moins nous les apôtres, on passe régulièrement par de mauvais jours, mais le Seigneur nous accompagne et nous fait sortir victorieusement de ces épreuves, de ces mauvais jours. Donc, la Bible nous montre également que Jésus n'a pas traversé la vie sans avoir de difficultés, de souffrances. D'ailleurs, si Jésus, le véritable fondateur de notre foi, n'avait jamais souffert, nous ne serions pas là, car il n'y aurait pas de salut. Parce qu'il a fallu que lui, il passe par là. Et Jésus lui-même disait à ses disciples en Matthieu 10, verset 24, « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. » Donc si Jésus, si les apôtres ont vécu une vie chrétienne où de temps en temps il fallait traverser le mauvais jour, il n'y a aucune raison que cela ne nous concerne pas non plus et que nous ne passions pas de temps en temps par le mauvais jour. Et Paul nous dit, c'est normal, puisqu'en tant que chrétiens, nous nous trouvons dans un combat. Verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible nous dit qu'en tant que chrétiens, lorsque Dieu nous rachète, il nous transfère du royaume des ténèbres et nous place dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ce qui fait que, tant qu'on reste encore dans le corps physique, dans ce monde de ténèbres, on n'est plus chez nous. On est en train de traverser vers notre chez nous, mais on est en territoire ennemi, et donc nous nous trouvons en combat. Mais l'apôtre nous dit que ce qui change lorsqu'on est chrétien, c'est que nous pouvons sortir de ces combats de manière victorieuse. Que Dieu nous équipe et nous aide et nous fortifie pour que on puisse, comme il dit, tenir ferme lorsqu'on traverse le mauvais jour, on puisse surmonter et connaître sa victoire. On peut être victorieux dans ces combats et dans le mauvais jour, puisque, comme on avait vu il y a quelques semaines, Dieu nous dit qu'il a tout pourvu pour nous aider. Verset 11, donc, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Dieu a préparé toutes les armes qu'il nous faut. Et on avait vu que tout d'abord, il nous dit qu'il va nous fournir la force qu'il nous faut pour pouvoir manier ses armes, mener ce combat pour en sortir victorieusement. Verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. » Alors comment est-ce qu'on se fortifie dans le Seigneur? En partie par notre lecture biblique, où donc, si on saisit par la foi tout ce que Dieu nous dit, on se trouve fortifié dans notre foi, capable de résister aux attaques de l'ennemi, et on trouve la force pour mener ce combat. Dans la prière, cette communion intime avec notre Dieu, où nous lui parlons, où lui nous parle, et où on reçoit par l'Esprit sa nature, par la prière, utilisant notre cerveau qui dirige notre langue dans le choix des mots, dans la prière aussi en langue où l'Esprit prie à travers nous et nous guide dans nos prières, nous donne les mots qu'il faut dans nos prières, des mots qu'on n'a jamais appris dans un cours de langue, mais que lui nous donne pour prier selon le cœur de notre Père, puisqu'il connaît parfaitement les pensées de notre Père, par notre louange également. Lorsque nous louons le Seigneur, nous l'édifions, donc nous lui faisons du bien parce que nous élevons son nom, nous le glorifions, mais nous nous faisons de bien également, puisque on se rappelle les vérités au sujet de notre Dieu. Donc on s'édifie nous-mêmes, on fortifie notre foi par nos louanges. Et une fois qu'on s'est ressourcé dans le Seigneur, Ben, c'est là qu'on va en plus avoir besoin de toutes les armes de Dieu. On avait vu, ce n'est pas qu'on est censé juste choisir l'un ou l'autre. Dieu a fourni tout ce qu'il nous faut pour mener ce combat. Donc, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Alors, la dernière fois qu'on a regardé ensemble ce passage, on avait regardé donc la vérité comme ceinture. Donc, l'apôtre dit, tenez donc ferme dans le verset 14, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. On avait vu que pour le soldat, sa ceinture était ce qui permettait que tout le reste de son armure soit en place. Et donc, on a vu que pour nous, toutes ces autres armes que Dieu nous a fournies sont fondées dans la vérité. Et donc, Jésus soulignait dans Jean 17, verset 17, « Ta parole est la vérité. » Donc finalement, nous trouvons toutes ces armes et nous pouvons manier toutes ces armes tant que nous restons fondés sur les principes de la parole de notre Père, qui est la vérité. Mais donc, après avoir parlé de la ceinture de la vérité, il nous dit de prendre, de nous revêtir de la cuirasse de la justice. Quand on voit cette phrase, la cuirasse de la justice, on se rend compte que tout premièrement, cette armure dont parle l'apôtre Paul, c'est véritablement l'armure de Dieu. Ésaïe nous montre que c'est l'armure que Dieu lui-même, que notre Seigneur emploie dans son combat contre notre ennemi, ce combat dans lequel lui, il en est sorti victorieusement. Donc, même si vous ne venez pas le mercredi soir à Ésaïe, c'est Ésaïe qui vient à vous ce matin, dans le chapitre 59, verset 15. Donc pour ceux qui ont suivi l'étude biblique, vous vous souvenez peut-être tout au début de ce livre d'Ésaïe, tout le descriptif de ce qu'était devenu le peuple de Dieu, ce qu'était devenu Jérusalem, comment le péché dominait la société à Jérusalem. Et donc, chapitre 59, verset 15, il y revient. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide. Et pour ceux qui ont été présents récemment quand on a regardé ensemble Ésaïe 53, tout de suite ça rappelle ce début du chapitre 53. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui donc a reconnu ce serviteur, le Messie, Jésus, le bras de l'Éternel dans ce combat? Alors son bras lui vient en aide, puisque aucun homme n'est capable de l'accomplir et de faire ce qui est juste. Son bras, son serviteur, son Messie, Jésus, lui vient en aide, et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Et il met sur sa tête le casque du salut. Sans doute, l'apôtre Paul avait ces textes en tête lorsqu'il a écrit dans Éphésiens 6 sur l'armure du chrétien. Mais avant tout, c'est donc Jésus, c'est le bras de l'Éternel, c'est le Messie qui se réveille de la justice comme d'une cuirasse et qui met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel dès maintenant et à jamais. Cette cuirasse donc était avant tout l'arme de Jésus dans le combat, mais arme que Paul nous dit dans Éphésiens 6 que le Seigneur met à notre disposition pour nous permettre de nous revêtir de son armure. Par, dit Ésaïe dans ce passage, le fait de se convertir de nos péchés. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Le Nouveau Testament appelle ça tout simplement la repentance. Le fait de faire demi-tour, d'arrêter d'aller dans le sens dans lequel nous conduit notre chair, notre nature propre, et de prendre la direction dans laquelle nous conduit le Seigneur. On se revêt donc de cette cuirasse de justice en le fait de se convertir de nos péchés, nous repentir de nos péchés, et puis tout simplement par la foi. De prendre cette cuirasse de justice que notre Rédempteur nous propose et nous donne. On a vu la semaine dernière que quand on parle de la foi, c'est plus qu'une simple croyance intellectuelle, une théorie dans laquelle on croit. La foi change quelque chose en nous en conséquence de ce qu'on croit. Et donc, avoir la foi pour revêtir la cuirasse de justice de Jésus doit changer notre manière de nous considérer nous-mêmes pour protéger notre cœur dans le mauvais jour lorsque l'ennemi cherche à nous assaillir. Grâce à cette cuirasse de justice de notre Rédempteur, on peut voir la vérité en face au sujet de notre nature propre, au lieu de toujours essayer de se voiler la face quant à notre nature propre. On n'a plus besoin d'essayer de cacher notre statut de pécheur, notre nature pécheresse, ni d'essayer de le minimiser en le comparant à d'autres que nous on trouve pire que nous. On n'en a pas besoin parce que nous savons que notre Dieu est fidèle pour pardonner nos péchés. On peut être honnête, parce que Jean nous dit dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Nous sommes invités donc à mettre sur nous, à nous revêtir de la justice de notre Rédempteur, du bras de l'Éternel, du Messie, se revêtir de sa justice parce que nous en avons besoin pour nous défendre, parce que si ça dépendait de notre propre justice, on n'aurait aucune chance. L'ennemi pourrait facilement nous assommer, nous ne pourrions pas nous tenir devant Dieu, parce que même si on est meilleur que nos voisins, et bien sûr je ne parle pas de votre voisin de siège de chaise ce matin, au culte, mais de votre voisin dans ma vie en général, si on était même meilleur que notre voisin, ça ne serait toujours pas suffisant pour nous tenir devant Dieu. Mais Dieu nous offre la justice de notre Rédempteur. Il propose de mettre sur notre compte la justice de Jésus, qui est une justice parfaite. On l'a vu plusieurs fois dans Romains chapitre 3, à partir du verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle justice. C'est la justice de Dieu, ce qui est parfait. Justice à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Donc vous prenez toutes les descriptifs, toutes les exigences, nous dit Paul, de l'Ancien Testament, si c'est les exigences de la loi, si c'est les exigences de l'interprétation des prophètes, cette justice de Dieu est manifestée par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Lorsque nous sommes invités à nous revêtir avec la justice comme cuirasse, c'est cette justice parfaite que nous sommes appelés à mettre sur nous par le moyen de la foi. Il n'y a point de distinction. La raison pour laquelle ça ne sert à rien de se mentir, ni de mentir à Dieu, ni de se cacher, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il nous donne comme cuirasse la justice de Dieu, justice de notre Rédempteur, qui nous protège contre les attaques de notre ennemi, de notre accusateur. Merci. Il est déjà question dans ce passage des ruses du diable, des puissances et autorités spirituelles dans les lieux célestes que nous combattons. Apocalypse 12, verset 10, appelle notre ennemi l'accusateur des frères, qui nous accuse devant Dieu, un peu comme on voit dans l'introduction de Job, mais qui vient aussi nous accuser dans notre conscience, qui est très content de nous dire, tu vois ce que tu as encore fait, tu crois que Dieu peut t'aimer tel que tu es, tu crois vraiment que Dieu peut t'accepter et être avec toi. 1 Pierre 5, verset 8 nous dit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais Dieu nous a fourni cette cuirasse de la justice afin de pouvoir résister à ses attaques, sachant que donc nous avons accès à cette grâce de Dieu de recevoir cette cuirasse par le moyen de la foi. C'est-à-dire, c'est à nous de le prendre sur nous. Et donc, lorsque l'ennemi continue son tactique qu'il a toujours eu depuis le jardin d'Éden, de nous séparer de l'amour de Dieu, puisque on voit ce que cela a produit lorsqu'il a convaincu Ève et puis Adam de péché, ils se sont cachés de la face de Dieu, de la présence de Dieu. Ils n'osaient plus entrer devant Dieu à cause de la honte de leur péché. Lorsqu'ils nous attaquent pour nous faire honte, pour qu'on n'ose plus profiter de ce statut que nous avons d'être enfants de Dieu, qu'on n'ose plus nous présenter devant notre Père, c'est là que vient en jeu notre foi dans cette justice, dans cette cuirasse que nous portons, où lorsqu'il attaque, nous pouvons à ce moment-là dire « Mais tu as entièrement raison. Je ne suis pas digne de connaître, de pouvoir appeler Dieu mon Père, car j'ai péché. » Tout comme Paul pouvait dire « Je ne suis absolument pas digne d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église. » Mais nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul, « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Par la grâce de Dieu, j'ai la justice de Dieu. Je suis son enfant, non pas parce que je le mérite, Je suis son enfant parce que lui m'a donné dans sa grâce la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ça ma défense. C'est ça qui me permet de maintenir ma relation avec mon Père. Alors bien évidemment, il y a deux côtés de cette justice. Il y a la justice de Dieu qui est mise sur nous, mais aussi l'objectif de Dieu, c'est que sa justice fait son œuvre en nous pour nous transformer à l'image de Jésus. Il veut produire et reproduire sa justice en nous, et cela aussi devient une forme de protection contre les attaques de l'ennemi. D'une part parce que moins on suit notre chair, moins on pêche, moins on laisse des pointes d'attaque à l'ennemi, il ne peut pas nous chatouiller sur quelque chose qu'on n'a pas fait. Donc on réduit ces attaques contre notre conscience, mais aussi le fait de permettre à la justice de Dieu d'œuvrer en nous et de se produire en nous devient également une protection contre les fois où l'ennemi cherche à nous tenter pour nous faire tomber, pour après pouvoir justement attaquer notre conscience, nous encourager à faire quelque chose pour qu'après il puisse revenir derrière et dire « mais tu vois ce que tu as fait ?» Si la justice de Dieu nous transforme à l'image de Dieu, on a une protection contre cette ruse du diable. Pour cela que Jean nous encourage à marcher dans la lumière. Il dit dans le premier chapitre, verset 7, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Alors, les versets de ce premier chapitre de Jean nous montrent bien que nous n'y arriverons pas parfaitement tant qu'on reste dans ce corps de chair. Mais comme dit Paul, même si on n'est pas encore parfait, nous tendons dans cette direction. Nous tendons dans la direction de la justice de Dieu. L'objectif de nous donner la justice de Dieu par la foi, ce n'est pas simplement pour nous donner après la possibilité de pécher librement, sans crainte de conscience. Le but, c'est justement de nous inviter à cette repentance, cette conversion dont parle Isaïe, qui est le fait de changer de vie et de marcher dans la lumière. Et cela devient en soi une protection lorsque l'ennemi essaye de nous attaquer dans notre cœur et dans notre vie. Donc, en tant que chrétien, remercions le Seigneur pour ce qu'il a mis à notre disposition. Reconnaissons notre besoin de ses armes, notre besoin de sa force. Ne comptons pas sur nos propres ressources. On n'en a pas assez pour mener cette guerre. Mais le Seigneur a plus que nécessaire et nous donne tout ce qu'il nous faut pour en sortir victorieusement. Donc, par la foi, revêtons-nous de sa justice comme cuirasse pour mener ce combat. Jésus portait ce combat, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et lui, il en est sorti victorieusement. Donc, si nous, nous pouvons par la foi nous approprier de ses armes à lui, nous aussi, il n'y a aucune raison pour laquelle nous n'en sortons pas victorieusement de la même manière et que donc nous allons pouvoir déjouer les tentatives de l'ennemi de nous faire tomber et comme ça donc nous allons pouvoir glorifier le Seigneur, vivre avec lui en communion avec lui, de marcher mutuellement en communion avec lui et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.